Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Remue Ménage, sur la web radio du bassin minier. Remue Ménage, hein, je vous rappelle, c'est tous les dimanches matins et ça concerne des enregistrements qui ont été effectués à l'occasion de débats, de ciné-débats, d'échanges. Et bien aujourd'hui, nous reproduisons un conférence-débat qui s'est tenu le 21 mars, c'était au LAG, à Liévin, au lieu autogéré du bassin minier. Et c'est la coopérative CLIS 21 qui organise un débat pensé ensemble concernant l'économie sociale et solidaire. Les débats pensés ensemble de CLIS 21, c'est à chaque fois un invité et des personnes qui sont invitées à réfléchir avec cet invité autour d'une thématique donnée. Et bien ce 21 mars, l'invité c'est Michel Besson. Michel Besson, c'est le fondateur de la coopérative Andine. La coopérative Andine qui elle-même a fondé le réseau Minga. Et Michel Besson était invité par CLIS 21 pour évoquer un peu son parcours et puis surtout évoquer ce qu'est l'économie sociale et solidaire, ce qu'est le commerce équitable, les pratiques de l'économie sociale et solidaire et la question de la place de l'économie sociale et solidaire dans le changement de société. Alors nous avons choisi pour cette émission Remue Ménage de ne pas reproduire l'ensemble du débat avec les participants. Il y avait entre 25 et 30 participantes et participants. Et nous avons choisi de sélectionner des extraits des interventions de Michel Besson. Donc nous efforcerons de vous présenter au cours de cette émission ce sur quoi Michel Besson intervient. Et pour démarrer, je vous propose de laisser Michel se présenter et présenter un petit peu l'objet de son intervention ce 21 mars lors des débats pensés ensemble de CLIS 21 au LAG, au lieu autogéré du bassin minier. A tout à l'heure.
Bon, bah, bonjour à toutes et tous. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation, parce que j'adore voyager, ça tombe bien. Et je voyage beaucoup, et partout en France ou dans les pays où je peux voyager, notamment en Amérique du Sud, ben, je découvre une multitude d'initiatives, je dirais citoyennes, entre guillemets, populaires, ouvrières. Et puis voilà, donc c'est pour ça que je reste optimiste, parce que partout, alors évidemment on voit jamais ça à la télé, d'ailleurs si j'ai un conseil à vous donner, c'est de mettre la télé dans un coin si vous en avez une, vous ne ferez rien, ou d'avoir une télé collective pour certaines émissions, quoi, très rares, hein, parce que les médias aussi à qui ils appartiennent, donc c'est comme l'éducation républicaine, on en parlera je pense, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous apprend pas. Et voilà, alors merci déjà à vous parce que c'est vraiment avec plaisir que je suis avec vous. Je m'excuse parce que je ne suis pas un conférencier, je suis fils d'ouvrier, j'ai été ouvrier pendant 17 ans, j'ai quand même une licence de sociologie avant de devenir ouvrier en métallurgie. Et puis je me présente un peu, mais j'aimerais bien aussi que chacun se présente rapidement pour qu'on se connaisse un peu. Donc je commence vite fait, puis après on peut peut-être, si vous êtes d'accord, faire un petit tour, on n'est pas très nombreux, donc c'est bien. Donc je suis à la retraite, mais je travaille bénévolement encore à peu près à mi-temps dans la coopérative qu'on a fondée, dans une coopérative qu'on a fondée il y a 28 ans et qui s'appelle Andine. Andine, c'est comme les Andes en Amérique du Sud, hein, les chaînes de montagnes qui vont du nord au sud de l'Amérique du Sud. Et pourquoi les Andes? Pourquoi Andine? Parce que cette idée de coopérative en France est née là-bas. Moi, j'ai vécu 4 ans dans une communauté indienne en Colombie, pays assez violent, comme vous le savez sans doute, puisque là, c'est pareil, hein, les médias ne parlent jamais des travailleurs, mais de tout ce qui est un peu scandaleux, violent, bon. Et ça empire d'ailleurs maintenant, c'est le terrorisme, c'est plein de choses. L'idée de Andine est née là-bas, parce que je vivais avec des Français en précarité dans ce pays, et j'avais envie de revenir. Nous sommes revenus, et on a créé la coopérative Andine en France pendant que les copains colombiens, créer une autre coopérative qui s'appelle Interexpress à Bogota, qui est la capitale de la Colombie. Ça n'a pas été facile parce que on ne savait pas ce qu'était une entreprise. En tant que travailleur, monter une boîte, d'ailleurs on était toujours contre. Et puis bon, on s'est dit, ben, on va créer quand même, on va essayer de créer un réseau de production et de commercialisation entre nous. Donc d'abord entre les producteurs colombiens et français. Et, mais pas n'importe comment. Donc on s'est donné des critères, si vous voulez, à partir des valeurs, entre guillemets, qu'on avait au fond de nous-mêmes, et qu'on a appelé l'équité, l'équitable. Donc Andine est née et Interexpress sont nés en 87, mais en 89, on a trouvé les mots équitables. Et on s'est dit, ben, on fait quand même du commerce. Avant, on parlait d'échange, parce que le commerce, c'est pareil. C'est un mauvais mot pour nous, en tout cas. Donc, on appelait ça commerce équitable. C'est nous qui avions amené en France les mots commerce équitable. Et comme beaucoup d'autres choses, on en parlera, je pense, dans la discussion, ben, ça a été complètement récupéré. C'est comme l'agriculture biologique, le développement durable, l'économie sociale et solidaire. Enfin, tous ces grands mots. C'est très difficile pour nous, d'ailleurs, ça a été très difficile pour nous de comprendre le monde dans lequel on vit, parce que, justement, on est dans un pays, un des pays au monde, où c'est le discours qui prime. On parle beaucoup, on fait beaucoup de discours, mais la pratique derrière a du mal à suivre. Enfin, c'est la réputation qu'on a en Amérique du Sud, hein, les Français, c'est... Ah oui, vous parlez bien, vous avez les philosophes, patati patata, les De Gaulle, les Brésil-Barbo, etc. Bon, mais donc ça c'est une chose. Autre chose qui nous rend la compréhension du monde difficile, bah, c'est qu'on est encore dans un monde occidental qui est encore pétri de culture coloniale et néocoloniale. Donc voilà, on a du mal à. Donc ce qu'on a appris, nous, de nos amis colombiens, surtout indiens, donc je dis indiens, hein, mais c'est dans les Andes, là c'est pareil, hein, c'est un mot voilà, inventé par les Occidentaux qui croyaient avoir découvert les uns, enfin bon. Donc la première chose à faire, c'est déjà de se laver la tête, quoi, d'essayer de se défaire de ce qu'on nous a formaté. Et ça, c'est très difficile pour tout le monde. Hein. Et de se poser des questions, de ne pas arrêter de se poser des questions, même sur le langage. Quoi. Je cite qu'un exemple, je ne vais pas être très long, hein, mais avant on était des citoyens, on avait un revenu, bon maintenant on est réduit à des consommateurs, même les syndicats ne parlent plus de citoyens, ils parlent de consommateurs. Avant on avait un revenu, maintenant on a un pouvoir d'achat. On est bon qu'à acheter, on est bon qu'à consommer, on est bon qu'à pousser nos caddies tous les samedis. En rigolant quand on achète des produits pas chers, sans se rendre compte qu'on est en train d'exploiter d'autres travailleurs, parce que si les produits sont pas chers, c'est qu'ils sont premièrement de mauvaise qualité, et que deuxièmement, derrière, bah, les travailleurs sont de plus en plus exploités. Vous n'êtes pas sans savoir que au niveau des produits par manque alimentaire et de l'agriculture, tous les ans, il y a 20 000 paysans français qui disparaissent, 120 000 en Europe. Bientôt il n'y en aura plus, donc ça va descendre, hein. Il y en aura 15 000, 10 000 qui vont disparaître, après il n'y en aura plus. Enfin, il y aura que les gros qui ne sont plus paysans, qui sont entrepreneurs. Voilà, c'est un exemple que je donne pour dire qu'il faut toujours un peu se remettre en question, mais par plaisir, quoi. Il hein. Ne faut pas non plus flipper là-dessus. Il faut se le faire tranquillement. Voilà, donc c'est dans cet état d'esprit, si vous voulez, qu'on a monté cette coopérative en ligne. Et pas toute seule, donc on est en lien avec surtout les mouvements syndicaux, paysans ou ouvriers, en Amérique du Sud déjà, puisque après la Colombie, la coopérative andine a travaillé bon, avec l'Équateur, une partie du Brésil, qui est un véritable continent, hein, le Guatemala, le Pérou, et en Afrique, le Burkina Faso et le Niger, et puis bien entendu, avec depuis le début, hein, avec des artisans et des paysans français. Puisque nous, on n'est pas dans le... Quand on a créé les mots, si vous voulez, commerce équitable, enfin les deux mots, hein, on les a mis ensemble. On les a même déposés à l'INPI, à l'Institut National de Propriété Intellectuelle, non pas pour se les approprier, mais pour définir, ça s'appelle une enveloppe solo, pour définir ce qu'on entendait par ces mots-là. Donc par ces mots-là, nous on entendait commerce équitable, c'est tout simple, c'est l'équité dans le commerce, dans les échanges. L'équité, ça veut dire justice, égalité, mais ça veut surtout dire le respect de l'autre. Le respect entre partenaires. Comme on est dans le commerce, c'est le respect, pas trop rapide, c'est le respect entre partenaires de toute une filière. Bon, ça c'est pareil, on ne l'apprend pas à l'école, hein, en France, mais tout commerce est fait et constitué d'une filière qui part du début jusqu'à la fin. Donc le début pour nous, quand on a créé Andine et Inter Express, le début c'était le producteur de la matière première. C'est-à-dire, vous prenez du café par exemple, bon, bah, c'était le producteur de café, et puis ça se termine au bout avec le consommateur. Donc le client final, j'aurais dû vous en amener d'ailleurs du café. Et puis on a découvert, grâce au débat, quoi, comme on est en train de le faire ici, on a découvert qu'on avait un autre partenaire qu'on avait oublié. C'est grave, quoi. Le premier partenaire. Vous avez qui est ? On avait oublié un partenaire. C'est-à-dire, on parlait des producteurs, des agriculteurs, pardon, des producteurs de café. Ensuite, vous avez le transformateur, le transporteur, l'exportateur, l'importateur, le commerçant en ligne. Hein, et le client final. Et on avait oublié un partenaire.
La terre ?
Comment ?
La terre ?
Excusez-moi.
La terre ?
Ouais, c'est ça. Bravo. C'est-à-dire la nature. Quoi. Voilà. Donc on s'est fait engueuler par les producteurs là-bas qui nous ont dit ouais, à nouveau, vous baratinez, oui, la filière, tout ça, mais vous avez oublié bon, ce qu'on appelle plus ici que là-bas, d'ailleurs, la Pachamama, la terre mère, parce qu'on en fait tout un mythe aussi. Hein, bon. Voilà. Et puis au final, après, bah, c'est vrai qu'un produit comme le café, je parle de produit physique, là, et ça ne s'arrête pas non plus à la consommation. Après, il y a les déchets, il y a les emballages, il y a plein de choses. Quoi, voilà. Et puis, lié à tout ça, bah, vous avez toutes les prestations, les transports, les comptables, la communication, Internet, l'informatique, enfin tout ça. Alors, voilà, nous on s'est dit, on va essayer de mettre de l'équité là-dedans. Parce qu'on ne se fait pas d'illusion, le commerce équitable, entre guillemets, ça n'existe pas. C'est impossible dans cette société qui est de plus en plus inéquitable, qui détruit de plus en plus les ressources naturelles, etc. Et donc c'est impossible. Mais on peut essayer, par volonté, par plaisir, essayer de se donner des objectifs. Donc on a construit, au fil des années, on a construit avec tous nos partenaires, parce qu'on agit toujours ensemble, hein, tous les partenaires de chacune des filières, comme celle du café par exemple, on a construit une sorte de charte, de cahier des charges, quoi, où on se donne des objectifs, dont le premier, des objectifs et des engagements, si vous voulez. Le premier, sur lequel on est tous tombés d'accord, c'est de s'informer justement sur la société dans laquelle on vit, essayer de créer des ponts entre toutes les luttes paysannes, les luttes ouvrières, les alternatives que les uns et les autres ont essayé de monter. C'est ça, notre premier engagement. Alors on a tout un chapitre qui décrit un peu tout ça, qui précise un peu les choses. Et voilà, le dernier critère, parce qu'il y en a pas mal, notamment bon, l'équité économique, hein, mais ça c'est presque secondaire. Et le dernier critère, c'est la transparence totale de tout ce que l'on fait. Alors pourquoi ? C'est pour se mettre en avant. Nous, on est gens, on ne se dit pas ni pionnier, ni exemplaire, ni rien. Mais c'est pour rentrer dans l'éducation populaire. Et là, je reviens à ce que j'ai dit au départ. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas à l'école. Par exemple, quand je discute avec des personnes, je pose souvent la question, je dis, voilà, Andine est une coopérative, est-ce que vous savez ce qu'est une coopérative ? On l'apprend pas à l'école. On n'apprend pas à l'école ce que tu appelles l'économie solidaire, mais encore moins des choses concrètes comme une coopérative. Quoi. Donc nous, on est toujours en train de dire à nos partenaires et à nos clients et autres qu'une coopérative, bon, pour nous en tout cas, une coopérative. coopérative de travailleurs. C'est une entreprise sans patron. Voilà. C'est-à-dire qu'on essaie de décider tous ensemble de ce que l'on va faire. Donc Andine, c'est facile parce qu'on est, je peux terminer là-dessus, on est quatre coopérateurs travailleurs. Avant, on était une SCOP, une société coopérative à participation. Maintenant, ça s'appelle société coopérative à participation ouvrière. Avant, c'était société coopérative ouvrière de production. Parce que là aussi, ça change. Nous, on a quitté les SCOP, parce que c'est une véritable mafia, et au niveau national, et en particulier au niveau de la région parisienne. Et on a repris un statut qu'on a découvert, qui n'est pas tellement connu, c'est le statut de départ des coopératives de production, des coopératives ouvrières, des coopératives de travailleurs, c'est les coopératives loi 47, simplement. Alors ça, c'est intéressant parce que ça permet aux travailleurs qui travaillent ensemble dans la coopérative d'être coopérateurs et de décider ensemble, mais ça permet aussi de faire entrer d'autres citoyens. Donc dans la coopérative Andine aujourd'hui, il y a quatre salariés, coopérateurs, plus moi, bon, qui suis en train de former des jeunes, puisqu'on passe le relais, hein, au bout d'un moment, il faut passer le relais. Et puis, il y a 40 associés, 40 coopérateurs associés, qui ont amené surtout bon, leurs idées, leurs conseils, et surtout un peu de fric. Parce que depuis 28 ans, en 28 ans, la coopérative Andine a eu un seul prêt bancaire. Alors que nous avons notre propre banque, hein, qui s'appelle soi-disant le Crédit Coopératif. Le Crédit Coopératif n'a jamais voulu nous prêter, parce qu'on ne fait pas de profit, parce qu'on ne fait pas de bénéfices suffisamment, parce qu'on n'a pas un château à cautionner, des maisons, etc. On n'est pas riche. Jamais. Voilà. C'est notre propre, la banque des coopératives. Et on n'est pas les seuls. Il y a énormément de prêts qui sont refusés à des petites coopératives parce qu'elles n'ont pas les reins solides, elles n'ont pas les moyens de cautionner. Il faut toujours cautionner les banques. Donc pour moi, pour nous, le crédit coopératif, je vous le dis franchement, c'est pire que le CIC ou la BNP, puisqu'ils ont un discours quoi, de solidaire, patati patata, qui ne vivent pas d'ailleurs, le crédit coopératif ne vit pas les coopératives, il vit des associations, hein, des prêts qu'ils font aux associations qui attendent de recevoir les subventions. D'accord, surtout les subventions européennes qui mettent 6 mois ou 1 an, vous n'en avez pas, mais tant mieux. Mais il y a beaucoup d'associations ou d'ONG ben, qui ont des contrats avec l'État ou la région ou l'Europe et qui attendent l'argent, donc ils vont avec ce contrat-là, ils vont à la banque et on leur prête, mais c'est 10% d'intérêt. Bon, vas-y, hein, si tu veux.
Non, je vais demander, la NEF, vous n'en voulez pas octroyer du crédit?
Alors, la NEF, si, mais... On a eu 3 fois recours à la NEF, donc ouais. Nouvelle économie fraternelle, des institutions qui se veulent alternatives aussi, mais qui s'est rapprochée donc il y a 6-7 ans du fameux crédit coopératif, pour avoir un chéquier, pour avoir, etc. Et qui finalement s'est mis dans des critères beaucoup plus bancaires, classiques. Donc maintenant la NEF, avant de vous recevoir, va vous demander, comme toute banque, l'envoi d'un dossier financier, un budget, ce qu'on appelle un business plan, un projet de développement, avant de vous recevoir. C'est ce que font toutes les banques. Alors qu'avant, on nous recevait. C'était humain, il y avait de l'humain. Bon, là, non, on regarde le truc. Oh là, s'il y a un chiffre qui ne va pas, ben non, désolé, au téléphone, hein, sans vous voir. Désolé. Voilà, donc on est à nouveau. Bon, ça, c'est le côté triste. Hein. Le côté gay, le bon côté, ben, c'est que... Il y a énormément de citoyens et de plus en plus de citoyens bon, que tout ça s'intéresse et qui rentrent dans l'affaire, quoi, en ligne, mais aussi dans plein d'autres initiatives citoyennes. Donc dans Andine, je vous l'ai dit, c'est une quarantaine de coopérateurs, mais un des coopérateurs, c'est des amis d'Andine, et eux sont 60, donc ça revient à 100 personnes en tout, qui ont mis un peu d'argent dans le capital. Hein, une entreprise, parce qu'une coopérative, c'est une entreprise, hein, c'est pas une association, c'est une entreprise. Donc, dans toute entreprise, vous avez le capital, au niveau financier, vous avez le capital, donc c'est l'argent de départ, quoi, le socle financier, si vous voulez, on fera une autre société, on fera différemment, mais pour l'instant c'est comme ça. Et à côté, vous pouvez avoir des emprunts, avoir besoin d'emprunts. C'est deux choses complètement différentes. Ceux qui rentrent dans le capital prennent les risques. On prend les risques tous ensemble. Ceux qui prêtent, il faut les rembourser. Donc autour d'Andine, on n'a pas seulement une centaine de citoyens qui ont mis un peu d'argent, y compris des copains qui sont RSA ou chômeurs. Hein. On a aussi des gens qui prêtent, donc c'est environ 150 personnes qui prêtent tous les ans. Alors c'est compliqué, hein, parce qu'il faut les rembourser, il y a des contrats à chaque fois, parce qu'il faut faire tout ça dans la légalité, bien entendu. Bon voilà, Andine arrive à tourner grâce à cela, puisqu'on est dans une société où l'argent, si vous voulez surtout faire ce genre d'échange, de commerce, il faut quand même un minimum de fonds de roulement, ce qu'on appelle en trésorerie un fonds de roulement, si vous voulez. D'autant plus que nous, dans nos fameux critères et cahiers des charges, on s'engage à prépayer nos produits, au moins 50%, hein, à la commande. La semaine dernière, on vient de recevoir 25 000 bouteilles d'huile d'olive de Palestine. On a payé déjà 50% de cette valeur-là, c'est-à-dire 75 000 euros, au mois d'octobre. Voyez. Donc ça veut dire qu'on a un besoin d'argent en permanence important, sinon ça ne fonctionne pas. Juste pour continuer mon introduction et la terminer, Andine fait partie d'un réseau qui s'appelle Minga, M-I-N-G-A. Alors Andine, je m'excuse, je n'ai pas mes papiers, donc c'est andine.com, le site, et Minga, c'est minga.net. Donc on a créé Minga en 99 pour, avec d'autres entreprises ou coopératives, aujourd'hui une quarantaine, et des citoyens, pour se rencontrer, discuter de nos problèmes, de nos visions du monde, etc., etc. Donc ça, c'est le réseau qui lui-même est en lien avec plein d'autres réseaux. Puisque, comme je vous l'ai dit, hein, il y en a une multitude, vous devez le savoir. C'est pour ça que moi, je suis très heureux d'être avec vous et de découvrir. Ça ne m'étonne pas non plus, mais ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, alors, je sais parler des syndicats, mais à côté de ça, il y a énormément d'autres réseaux. En France, on est assez liés, on a été cofondateurs, on est assez liés au REPASS, donc le réseau de l'économie.
Réseau.
REPASS pour. Je ne sais plus exactement. Bon, ça me reviendra.
Ça fait deux.
Là, c'est pareil, c'est une trentaine d'entreprises, ouais. Coopératives. Bon, il y a ça, puis on est lié bien sûr à la Confédération paysanne. Au niveau international, on est très lié à Via Campesina, donc qui regroupe des syndicats comme la Confédération paysanne en France. Donc nous, quand on travaille dans un pays, en général, on va voir les syndicats ou des organisations populaires, citoyennes, etc. Déjà pour se connaître, quoi. Parce qu'avant de monter une filière commerciale, enfin d'échange, ça nous prend à peu près 2 ans. Hein. C'est-à-dire, faut se rencontrer, il faut que les partenaires qui sont en Colombie, en Palestine ou en France viennent nous voir aussi. Donc on se donne les moyens, hein, de faire le voyage dans les deux sens, parce qu'on peut se donner des illusions. Hein. Ceux qui n'ont jamais été en Amérique du Sud peuvent s'imaginer que l'Amérique du Sud, c'est un océan de misère, c'est la pauvreté partout, c'est une société de classe. La grande majorité, 90% des gens, ce sont des travailleurs comme vous et moi, et voilà, qui veulent vivre en paix, avec toutes les différences politiques, etc. Voilà. Et on est tous dans la même société. Alors il y en a d'autres qui vont nous diviser en Nord-Sud. C'est le fameux commerce équitable dont on a affaire dans la grande distribution, hein, c'est-à-dire le message qui passe au niveau du commerce équitable, c'est que les consommateurs du Nord doivent aider les pauvres petits producteurs du Sud en achetant leurs produits à un prix un petit peu plus élevé, voilà, pour les aider. On est toujours dans la charité, on est toujours dans le colonialisme. Ce sont des produits, d'ailleurs, ce sont toujours des matières premières qui sont importées, comme au bon vieux temps du colonialisme, et on ne remet pas en cause la négation de l'autonomie alimentaire, de la souveraineté alimentaire, etc. etc. Alors que bon, nous, ça fait partie de l'Altemars depuis le début. Ce qui empêche pas des échanges internationaux. D'autant plus pour nous, c'est important, je termine là-dessus, parce que quand on a créé InterExpress en Colombie et Andine en France, et quand d'autres paysans ou artisans ont créé d'autres structures ailleurs, dans d'autres pays, même européens, hein, en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc., on les a créés comme des outils de lutte. C'est-à-dire, par exemple, quand on travaille avec les Palestiniens ou les Colombiens, etc., ben, ça permet, disons, l'échange matériel, l'échange de produits, est un vecteur d'échange au niveau politique, au niveau social, au niveau humain, philosophique, etc. Quand on reçoit des commandes, par exemple, ben, dans les cartons, il y a des journaux, il y a des DVD, s'il y en a, enfin, voilà, on s'informe mutuellement, si vous voulez, de nos réalités de travailleurs, quoi, tout simplement. Puisque ce qui nous intéresse, je remets là-dessus, ben, c'est de changer cette société, oui. C'est même changer de société. Quoi. Et à ce moment-là, ben, je ne vous cache pas que je suis là pour ça. Voilà un peu ma petite introduction. Puis après, on développera peut-être sur l'économie sociale et solidaire.
Oui, vous êtes toujours sur Remue Ménage, sur la web radio du Bassin Minier, à l'occasion du débat avec Michel Besson, débat organisé par CLIS 21 au LAG. Et Michel Besson maintenant va faire une courte réponse à un participant concernant le commerce équitable.
Oui, en parlant de café, dans les grandes surfaces, je vois le café par longo.
La petite boîte en fer avec les petits producteurs. Ouais. Oui. Bah, j'ai rien à vous dire. Hein. Je me suis exprimé sur le fameux commerce équitable récupéré par la grande distribution. Ça ne veut pas dire que les producteurs de ce café sont peut-être payés un peu plus cher. On ne sait pas. Faites une enquête parce que c'est pas du tout transparent, c'est complètement opaque. Si vous vous adressez à la marque Max Avala, il y a un logo. Hein. Donc il faut savoir que Max Avala, c'est une boîte qui vend sa certification contre des royalties, d'abord aux producteurs, ensuite aux transformateurs, puis évidemment aux clients d'ici. Et puis c'est le consommateur qui, au final, paye tout ça. Mais Max Avala ne vend que sa marque. Max Avala n'importe rien, parce que là aussi il y a une confusion. Hein. On s'imagine que oh là là, c'est super, il y a enfin une association qui dit un peu comme un artisan du monde. Donc ce qui est important, c'est que derrière tout ça, il y a énormément de mensonges. Et d'abord, quand la marque privée, qui est complètement privée, hein, Commandine par exemple, quand la marque privée Max Avala s'est fait passer pour label. Quand elle, au début des années 2000, on disait le label Max Avala, etc. Nous, on n'est pas bêtes, quand même, les Français, donc on sait qu'il n'y a toujours qu'un seul label dans un domaine. Vous prenez l'agriculture bio, par exemple, il n'y a pas 100 labels, il y en a un. Pourquoi ? Parce qu'un label obligatoirement appartient à l'État. Mais en ce qui concerne l'équité, le commerce équitable, etc., il n'y en a pas. L'État ne contrôle rien. Donc, chacun, que ce soit Max Avala ou Andine ou d'autres, peuvent inventer, créer des mots, etc., mais ce n'est pas du tout contrôlé par l'État ni par les citoyens, si on veut. Voilà. Et puis c'est comme ça que la grande distribution a récupéré, hein, en transformant, si vous voulez, la notion d'équité dans les échanges, que nous on a pris d'ailleurs, les mots, hein, on les a pris chez Aristote, qui a écrit, c'est un philosophe grec, hein, qui a écrit un document qui s'appelle Éthique à Nicomaque, hein, où il parle, tout ce document, c'est sur l'équité dans les échanges, sur le commerce. Bon, nous on a trouvé, tiens, le terme équité, le sens d'équité, de justice, de... ça nous a plu, donc on a pris ce mot-là, qui a été donc écrit, si vous voulez, ou défini il y a 23 siècles. Comme quoi, c'est pas nouveau. Hein. L'équité dans les échanges, de toute façon, c'est pas nouveau. Depuis que il y a des échanges, il y a toujours eu des hommes et des femmes pour vouloir échanger de manière respectueuse, heureusement, hein. Surtout en milieu populaire d'ailleurs, sans chercher à voler l'autre, quoi. Voilà, tu produis, bah, moi je produis ça, toi ça, bah, on échange, et voilà. Donc nous on avait trouvé ces mots chez Aristote, et puis mais après on nous a dit, oui mais vous, votre conception du commerce équitable, de l'équité dans les échanges, et la transparence surtout, c'est subversif. Donc, non, ça ne va pas être ça, ça va être Nord-Sud. Donc, M. Chirac, en 2003, a filé 6 millions d'euros à la fameuse marque privée Max Havelaar, 6 millions d'euros, en subvention, hein, un don, pour qu'elle s'impose. Et pour qu'elle impose, qu'elle nous mette dans la tête, commerce équitable égale les consommateurs du Nord qui aident les pauvres petits producteurs du Sud, avec tout le mépris que ça veut dire, la condescendance... au mieux, hein. La charité et tout ça. Bon, nous on sait que la charité, mauvais sens du terme, hein, n'a jamais aidé en quoi que ce soit, au contraire, hein, ça permet de cacher les réalités, voilà, les riches qui aident les pauvres, quoi, les dames patronesses qui distribuent quelques miettes des profits de leur mari à leurs pauvres, hein, chacun à ses pauvres, hein. On est bien placé pour savoir d'ailleurs, hein, parce qu'en Europe il y a énormément d'ONG, d'associations qui sont liées aux pays du Sud pour les aider, construire des puits, des machins, des ci et des ça. Au lieu de laisser justement les travailleurs, les gens, faire ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. Ça n'empêche pas des solidarités, mais une solidarité pour nous, ça va dans les deux sens. Alors Malongo, bah, c'est une boîte de café, voilà, qui s'est accoquinée avec Max Havelaar parce que ça permet de surfer sur la générosité même, hein, sur notre inconscient, quoi, hein, parce qu'on est mal dans cette société. Donc on a envie de faire quelque chose, quoi, ben, si on peut au moins aider. Hein. Voilà. Mais tout ça, c'est opaque. Hein. Nous, on s'est adressé plusieurs fois à Malongo, notamment les étudiants de Roubaix, parce que je suis intervenu à l'université de Roubaix, je ne suis pas professeur du tout, hein, je disais à Lucien, mais l'université m'a demandé d'intervenir pendant 5 ans à l'université, 25 heures, oui, par an, sur justement l'économie... Et les étudiants ont fait des enquêtes, notamment à Malongo, téléphone, on répond, secret professionnel. Aucune transparence. Alors après, si vous creusez un peu, vous allez voir, non pas Max Havelaar, parce que sur leur site, il n'y a absolument rien, mais Fairtrade Labelizing, enfin, l'organisation internationale, si vous voulez, dont fait partie Max Havelaar France. Et là, vous allez découvrir qu'il y a des prix, quand même. Il y a des prix minimum, hein, pour le café, par exemple. Donc, contrairement à nous, et à plein d'autres, hein, qui se foutons complètement de la bourse de New York, parce que le café, le prix se décide à New York ou à Londres, Max Havelaar se base là-dessus et a décidé de payer donc 5% de plus que le prix de la bourse. Bon, pourquoi pas, hein, si le producteur touche 5%, je suis un peu long, mais bien expliquer les choses. Si le producteur touche 5%, c'est rien du tout, hein, parce que 5% de la misère, voilà, ça fait plaisir aux bourgeois d'ici. Mais bon, on peut dire que c'est toujours ça. Hein. Mais ça ne veut pas du tout dire ça, parce que le prix de la bourse, ce n'est pas le prix payé au producteur. C'est là qu'on est ignorant, souvent. Et c'est pour ça qu'on n'apprend pas ça dans nos écoles. Le prix de la bourse, c'est le prix FOB, c'est-à-dire c'est le prix du produit qui est dans le bateau, prêt à partir du pays. D'accord ? Donc avant d'établir ce prix FOB, vous avez les marges des intermédiaires avant. C'est-à-dire vous avez l'exportateur, la marge de l'exportateur, la marge de l'entreprise ou de la coopérative qui va trier le café, par exemple, parce qu'ici on nous envoie le meilleur café, hein. Il y a 20% à peu près du café qui est mauvais, il reste dans le pays de production, il est consommé dans le pays de production. Hein, les 80% de bons cafés sont exportés. Voilà. Toujours matière première, hein. On ne transforme jamais dans le pays de production, ça c'est interdit. Ça aussi c'est des impositions coloniales qui existent toujours. Bon. Donc il faut savoir que le prix sur lequel se base ce fameux commerce équitable officiel, on pourrait dire, hein, parce que l'État est d'accord, tous les politiciens sont d'accord avec ça, c'est un prix d'exportation.
Oui, donc, c'est basé sur le marché aussi.
Hein.
Et c'est basé sur le marché, sur la concurrence.
Sur le marché.
En plus.
Sur le marché, oui. Donc c'est un prix qui inclut le prix au producteur, sans doute, bien sûr. Mais ensuite, vous avez les transports, hein, entre la ferme de chacun des producteurs, pour amener le café à la coopérative, qui va faire un premier tri, ils vont mettre en sac, patati patata. Après, il faut aller à l'usine qui fait vraiment un tri, hein, mécanique, enfin, c'est très très précis pour qu'on. Parce que c'est calibré, hein, c'est comme les pommes ou les oranges, hein, vous ne trouvez pas n'importe quoi dans les grandes surfaces. Hein, bon. Et ben, le café, c'est pareil, c'est calibré. Puis il y a différentes qualités, patati patata. Ce qui fait qu'il y a des gens, avant ce prix FOB, si vous voulez, il y a des gens qui prennent leur marge. C'est peut-être normal d'ailleurs. Mais combien est payé le producteur, le producteur, le paysan, quoi. Combien est payé? On ne sait pas. Secret professionnel. Voilà. D'autant plus que Malongo, en plus, il mélange des cafés. Alors là, voilà, quand on insiste un peu, vous le savez, c'est des mélanges, il y a le Costa Rica, le Mexique, voilà. Bon, nous, ce qu'on tire de ça, c'est que des boîtes comme Malongo et plein d'autres, hein, parce que maintenant, vous avez Nestlé, vous avez, enfin, il y a plein, toutes les grandes marques, si vous voulez, les multinationales, ont leur petit café équitable, hein, le groupe Accor, par exemple, des hôtels, McDo, un café équitable aussi, et je parle pas de Starbucks, alors là, c'est parmi les pires. Ils surfent sur cette vague pour communiquer, quoi. C'est, on se redevrait le blason, si vous voulez. Voilà. Nous aussi, on aide les pauvres petits producteurs, avec tout le paternalisme méprisant que ça veut dire. Et nous, quand on en parle avec nos amis producteurs, ils sont doublement humiliés, quoi, hein. Humiliés par la réalité économique et humiliés par ce discours soi-disant solidaire, etc. Voilà, alors je ne dis pas, on ne sait pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est boycotter la grande surface. Au maximum. Au maximum des possibilités.
Moi, j'ai une question. C'est. déjà, tu voyages souvent là-bas?
À peu près tous les 2 ans.
Tous les 2 ans. Donc, tu as l'occasion de discuter avec ces producteurs.
Bien sûr.
Et par rapport à toi, combien ils touchent réellement? Je ne parle pas de ta marque, mais je parle justement de Malongo. Parce que si c'est opaque d'un côté, tu peux très bien le savoir autrement, par rapport à la source elle-même.
Oui. En général, ils sont, enfin, les fournisseurs des boîtes qui sont, comment dire, certifiées Max Havelaar, hein, et pas labellisées. Bon, en général, ces producteurs, ce qu'on sait, nous, sur le terrain, comme vous dites, c'est qu'ils sont payés un petit peu plus. Mais c'est quoi, 5%, 7%, voilà. C'est pour ça que nous, on s'en fout de la bourse et tout ça, on va discuter, on discute, nous, tout le long de la filière. Bon, le café, par exemple, cette année, nous, on l'achète le double du prix prétendu Max Havelaar, quoi. Mais pas seulement le prix FOB, hein. On veut aussi que ça retombe sur le producteur, ok. Mais nous, on veut aussi vivre de notre travail. Et il faut que nos amis producteurs, nos partenaires, comprennent, nous respectent aussi. Parce que nous sommes des travailleurs. Nous, on n'est pas des curés, on est des travailleurs. Bon. Donc, il faut qu'on vive. Enfin, excusez-moi, je ne vais offenser personne au niveau religieux. Hein. Je ne sais pas. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on prend du temps. On prend au moins 2 ans, nous, pour construire une filière, notamment celle d'un café de Colombie, par exemple, le sud de la Colombie, qui maintenant est en relation, c'est une coopérative, hein, de 1600 familles, qui est en relation maintenant avec des coopératives en Palestine, parce que là aussi, on est là aussi pour essayer de créer des ponts, quoi, essayer, hein, de créer des ponts, et notamment avec les partenaires palestiniens qui sont un peu enfermés, ils sont dans une prison, hein, c'est ouvert, donc ils appellent à la solidarité, mais ils ont du mal, là aussi, des fois, à être solidaires d'autres luttes. Donc, quand on va là-bas, ça nous permet aussi d'informer, de dire que, en Colombie, cette année, il y a eu 1000 assassinats de journalistes, de juges, et 1000 assassinats, beaucoup plus qu'en Palestine. Hein. Donc, voilà, faut essayer de créer des ponts et des solidarités, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais au moins qu'on ait l'information. Voilà, je suis un peu long, hein, mais... Voilà, donc nous, c'est ça, mais nous, on ne se base pas là-dessus, hein. On négocie, je peux dire ça, on discute, quoi. Bon, ben, voilà, toi, le producteur de café, qu'est-ce que tu attends, quoi, pour pouvoir vivre? Alors, il nous dit, tant qui kilos. Alors ça dépend des saisons, parce que l'agriculture, c'est la nature. Hein. Donc il y a des bonnes récoltes, il y a des mauvaises récoltes, etc., etc. On a tous des besoins différents aussi. Et puis il y a des gens qui ont des familles, il y a des gens qui sont seuls, voilà, on a tous. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre du temps, parce que. Et c'est là qu'on essaye de réfléchir aussi à une autre société. Hein. On essaie de réfléchir. En dépassant en plus notre atavisme. C'est-à-dire, nous sommes des travailleurs, on est des cons, quoi. On n'a pas fait d'études, on n'a même pas le certificat d'études, alors on est incapable de penser. Ben, c'est pas vrai. Mais on veut nous faire croire ça. Ben non, on est aussi intelligent que. Voilà. Et quand on a affaire à des amis, à des partenaires, justement, en Amérique du Sud, ben souvent, le premier rapport est vachement difficile. Hein, parce que, ah ben oui, mais vous venez de l'Occident, et puis Michel, putain, fait une licence de sociaux, toi. Parce que nous, on cache rien. Hein. Alors, ils me prennent pour le professeur. Au début, ils m'appellent le professeur, au docteur. Parce que voilà, alors. Et à l'inverse, hein, moi, je peux être. Je peux jouer sur ma fibre involontairement. Enfin, je parle de moi, là, mais mes collègues, c'est pareil. Hein, sur ma fibre catho. Parce que je suis plus catholique, mais je suis issu d'une famille catholique, ouvrière, donc militante en plus. Donc, je veux dire, bah oui. Voilà, faut faire attention, quoi. Mais bon, le débat est très important pour moi aujourd'hui.
Oui, eh bien finalement, la réponse de Michel Besson n'était pas aussi courte que ça. Mais laissons-lui la parole, une fois de plus, autour de la question de la souveraineté alimentaire. À tout à l'heure.
Bon, mais nous, dans notre cahier des charges, là, si vous voulez, l'objectif, on appelle ça une charte d'engagement, d'objectif et d'engagement, un des premiers points, c'est la souveraineté alimentaire des populations. Donc, c'est pas, on ne va pas se mettre à importer n'importe quoi, et même chez nous, parce que ça commence chez nous, on pousse à ça. C'est pour ça qu'on est en relation avec des organisations de jardiniers. On a une AMAP également, on est 250 à Saint-Denis. On a une AMAP quoi, de 250 personnes. On est un des deux lieux de distribution. On est très lié, j'ai déjà dit, hein, à la Confédération paysanne. Et voilà, un de nos objectifs, un de nos critères, c'est ça, c'est la souveraineté alimentaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'interdire des échanges qui vont un peu plus loin, mais en tout cas, on est pour que. Et là, on a beaucoup de difficultés avec les agriculteurs, je ne sais pas vous, mais. Nous, on dit que l'agriculture, c'est l'alimentation. Enfin, ça amène à l'alimentation. L'alimentation, c'est une affaire de citoyens. C'est pas une affaire d'agriculteur, de producteur, uniquement. C'est une affaire de citoyens. C'est à nous tous de décider. C'est à nous tous d'inventer quelque chose, un système, qui a peut-être déjà existé. Hein. C'est pour ça qu'il faut étudier l'histoire, il faut beaucoup étudier. Et d'où l'importance de l'éducation populaire, hein, et de la recherche aussi, scientifique populaire. Parce qu'on n'est pas bêtes. Bon. Il faut discuter de tout ça et trouver des solutions. Alors, je redis, en ce qui concerne Andine, c'est un outil de lutte. Peut-être que demain, on dira la même chose que ça. Hein. Depuis le début, on se pose la question. Est-ce que ça vaut le coup d'importer des produits de loin, etc. Nous, c'est un outil d'échange. Et c'est complètement différent d'échanger intellectuellement ou politiquement, notamment par Internet, maintenant c'est facile, hein. C'est différent si vous faites que ça, ou alors si vous fondez cet échange intellectuel, politique, social, culturel, philosophique, sur une pratique concrète. Enfin, nous, on a toujours été pour l'action concrète. Quoi. C'est à travers, vous devez le vivre aussi ici, hein, c'est quand on fait des choses ensemble, on prend des risques ensemble, on a du plaisir ensemble. Il y a de l'humain ensemble, et c'est autre chose que simplement discuter, voilà, puis le lendemain c'est perdu. Enfin, je sais pas si je.
Voilà.
Donc, nous, effectivement, c'est ce qu'on prône. Et on a beaucoup de problèmes avec des agriculteurs, surtout localement, dans certaines régions de France, des agriculteurs qui sont membres de la Confédération paysanne, par exemple, ou du MODEF, pas le MEDEF, le MODEF plutôt. Le côté communiste, syndical, paysan, quand on dit ça, on dit, mais c'est une affaire de tous, discutons-en. Et nous, on aimerait que vous, les agriculteurs, vous nourrissiez les populations d'abord, en priorité, locale, régionale, nationale. Voilà, qu'on en discute au moins, hein, au lieu de faire n'importe quoi parce que le marché, voilà, qu'on en discute, quoi. Et on a du mal, mais ça avance. Voilà. Et puis on se découvre. Alors, ce qui est très important aussi, c'est justement, c'est de créer des ponts entre nous tous qui avons des statuts différents, des professions différentes. Hein. Partout dans le monde, c'est comme ça. Le paysan, il va mépriser l'ouvrier, l'ouvrier va mépriser l'employé, enfin, le mépriser ou l'ignorer. Hein. Parfois, ça va jusqu'à la haine.
Hein. Ça, c'est
aussi la haine raciale, etc. Mais il y a aussi il faut qu'on se rencontre. Entre paysans, ouvriers, employés, chômeurs, sans-papiers, tout ce qu'on veut, tolards. Il faut qu'on arrive à se rencontrer, quoi. Et arrêter de se faire diviser, comme on l'est aujourd'hui. Voilà. Hein?
Ça, c'est voulu politiquement, quand même, ça. Hein?
Comment?
C'est voulu politiquement,
c'est bien sûr que c'est voulu. Bien sûr, c'est toujours été.
De plus en plus.
On nous a toujours, cherché à nous diviser. L'école est là pour ça, les médias sont là pour ça. Et je dis l'école, hein? L'école. Je ne remets pas en cause tous les instituteurs, les professeurs qui essaient de faire autrement, justement. Il y en a beaucoup qui sont virés. Je ne remets pas en cause certains journalistes qui essaient de faire autrement, mais qui sont comme nous, qui ont de moins en moins de temps pour faire des reportages, des recherches. Ils n'ont plus le temps. Voilà, ils sont comme tout le monde. Donc il faut qu'on se rencontre et puis qu'on en invente autre chose. Quoi.
Ce qui est difficile.
Et la question des luttes.
C'est ça la lutte.
Bah c'est comme le bio.
C'est comme les luttes ouvrières. Bon, j'étais syndicaliste. Hein. Bon, ben voilà, tu te bagarres pour augmenter les salaires, ou l'hygiène et la sécurité. On se bagarrait sur un tas de choses. Et puis, en même temps, tu es dans le système, quoi. Tu pousses le système d'une certaine manière.
Mais c'est difficile. Enfin,
on est toujours en contradiction. C'est pas grave.
Ben oui. Enfin, moi, je me dis c'est pas grave, mais autour de moi, quand j'essaie de convaincre des gens, ben, eux, j'ai l'impression qu'ils s'essoufflent plus vite parce que dès qu'on leur dit un truc, ah ben non, c'est pas vraiment comme ça, c'est pas aussi transparent que ça, etc. Et ben bon, ben, alors on fait. Voilà. Et du coup, c'est difficile de.
Ça fait partie des chemins publics, c'est-à-dire qu'on nous a fait perdre confiance en nous-mêmes.
Oui,
donc il faut qu'on. C'est la première chose à faire, quoi, essayer d'arrêter de s'apitoyer sur ce sort déjà. Et puis, parce que ça ne sert absolument à rien. Et puis et voir la réalité en face. Hein. Oui, on est tous dans des contradictions. Oui, c'est compliqué. Toute lutte est compliquée. Bon, ben voilà, il y a des avancées, il y a des. On a monté les coopératives, on en parlera peut-être tout à l'heure, hein, de la fameuse économie sociale, CVDR, qui pour moi n'existe pas, hein, mais je pense qu'on en parlera. Voilà, oui, d'accord. Et alors, c'est compliqué. Ben, ouais, on est là justement pour essayer de comprendre, d'essayer de sortir les éléments principaux, quoi, hein, et pour aller de l'avant. Et puis après, il faut changer de voie si on fait des choses. On fait des choses tous les jours. Donc.
Est-ce qu'on pourrait pas acheter, par exemple, le café équitable sur Internet, commander directement?
À qui? Aux producteurs?
Oui.
Ah oui, mais les producteurs, ils vont pas vous envoyer 2 kilos par Internet, ça va vous revenir beaucoup plus cher.
On commande par 60 euros plusieurs cafés.
Non, mais il y a des gens qui s'organisent comme le Chiapas, là, le café du Chiapas.
Nous, on l'achète par
an. On l'achète une fois par an pour toute l'année.
Oui.
Donc ça, c'est des regroupements, c'est comme la map, hein.
Des
regroupements de citoyens qui se mettent ensemble, et au lieu d'acheter, bon, c'est pas que 50 kilos, en général c'est 20 tonnes qui arrivent, donc il y a le temps de
chacun.
C'est en fait qui
on fait du prépaye,
Nous sommes toujours avec Michel Besson, cette fois-ci sur la question du capitalisme.
Oui, le capitalisme, disait, c'est plus le même. C'est ça qui est...
Bah oui, c'est ça.
Moi, je pense que c'est le même. Je pense que c'est le même, sauf que ça s'accumule de plus en plus. C'est l'accumulation capitaliste. Ça va de plus en plus vite, etc. Mais le fondement, c'est toujours le même.
C'est-à-dire
le moteur de
l'économie. C'est pas ça que j'oublie.
Non, mais ça, faut bien... C'est important, quoi, de le dire. C'est pas de la langue de bois. Le moteur de l'économie capitaliste, donc qui domine aujourd'hui, c'est vraiment la recherche de profit. Et l'accumulation des capitaux, etc., comme disait le copain, ben voilà, ils ont du fric, il faut qu'ils en fassent quelque chose. Mais pas seulement. C'est-à-dire qu'ils ne vont investir que dans ce qui va leur rapporter.
Immédiatement.
Et un gros chiffre.
On a des productions aujourd'hui qui sont nuisibles, qui sont dangereuses, qui sont incroyablement mauvaises, mais ils investissent là-dedans parce qu'il y a, il va y avoir du, il y a du profit en même temps. S'il y a du profit, ils vont démultiplier la consommation individuelle. On pourrait avoir des voitures collectives, ou on aurait pu inventer un style de transport complètement différent de ce que vous avez dans la rue. Hein. On aurait pu inventer d'autres machines, d'autres... Mais non, ça ne les intéresse pas. Il fallait produire des millions de bagnoles parce que, et les individualiser, hein, chacun sa bagnole surtout, hein, parce que c'est basé sur le commerce, le productivisme, le consumérisme, etc. Voilà le fondement de la société. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi je ne pense pas que, que ça soit toutes nos alternatives, si nombreuses soient-elles, qui vont changer le monde. Ça fait partie du combat qu'on mène. Mais le combat, il est aussi politique. Alors il n'est pas politique, je termine, excusez-moi, il n'est pas politique au sens de la politique politicienne d'aujourd'hui. Et c'est là qu'il faut qu'on invente autre chose. Là, on a affaire à une politique qui nous décharge de nos responsabilités, donc... On accroît nos loisirs, on ne réfléchit plus, etc., parce qu'on va voter tous les 3-4 ans, on fait un chèque en blanc, les élus deviennent des notables, des politiciens, ils décident à notre place, non seulement notre place, mais ils font ce qu'ils veulent. On est dans la démocratie représentative. Bon, il faut inventer une démocratie directe. Il faut qu'on imagine des choses, et les libertaires l'ont souvent fait, hein, et l'ont même réalisé souvent dans certains mouvements révolutionnaires. Hein. D'élections directes avec des délégués révocables à tout instant. Il faut fédérer au lieu de construire des machines pyramidales. Enfin, voilà, on a, faut le dire, bon, ce sont les travailleurs d'ailleurs qui ont inventé tout ça. Hein. Et il faut qu'on aille jusque-là, quoi. Enfin, il faut débattre. Moi, je donne mon point de vue. Hein. Et toi, tu as donné le tien, enfin, chacun donne le sien. Il faut débattre. Et puis, il faut être. Il faut regarder en face, ben oui, on n'est pas d'accord, tant mieux. Hein, tant mieux, parce que ça amène le débat. Ça... Et puis c'est comme ça qu'on va y arriver, à inventer autre chose. Hein. Moi, je vois beaucoup de jeunes, nous on a affaire à beaucoup de jeunes en ce moment, ben, ils sont là-dessus. Hein. Ils sont là-dessus. Ils ont étudié, ils ont fait pas mal d'études, ils sont au chômage, donc ils réfléchissent. Et c'est souvent d'ailleurs des enfants de travailleurs. Hein. Ils ne sont pas forcément universitaires, mais tu vois, lycéens, ou ils sortent de lycée technique, par exemple, ou de d'IUT, j'en ai rencontré encore hier. Bon, ils réfléchissent à tout cela, quoi.
Oui, eh bien, rebonjour dans Remue Ménage, sur la web radio du Bassin Minier, avec Michel Besson, qui, pendant quelques minutes, revient sur la question du commerce équitable.
Tout à l'heure, j'ai dit que... Le commerce équitable, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister, si on en est convaincu. Il peut y avoir des démarches qui vont vers le respect de la nature, le respect des femmes, des hommes. On avance quoi dans différents domaines, on se donne des objectifs dans X domaines, s'informer par exemple, et puis on essaie de tendre vers ça. Mais ça n'existe pas au sens pur du terme. Ça, c'est le premier mensonge du. Nous, on a peut-être mal choisi le mot. Hein, on aurait pu s'appeler pour un commerce un peu moins inéquitable, par exemple. Ça aurait peut-être été plus juste. Parce que dans notre tête, c'est ça, finalement. D'accord ? Bon, au niveau des échanges, hein, du commerce. Par rapport aux intermédiaires, moi, je ne suis pas du tout contre les intermédiaires. Ce sont des travailleurs, comme vous et moi. S'ils sont nécessaires, indispensables, voilà, on passe par eux. C'est pas... Nous sommes intermédiaires, d'ailleurs. Hein. Et on réfléchit justement, nous aussi, à Saint-Denis, sur la question des circuits courts, etc., parce qu'il y a une espèce d'idéologie en ce moment qui s'amène, d'ailleurs, Mme Le Pen est complètement d'accord avec ça, hein, des circuits courts. Ah, il faut que tout soit circuit court, faut que ça vienne du petit producteur, il y a toute une idéologie qui se crée là-dessus. Non, dans certains cas, et pour certaines personnes, aujourd'hui, dans le système capitaliste, les circuits courts, ça peut arranger, dans d'autres, non. Hein. faut pas non plus essayer d'idéologiser les choses, quoi. On a certainement des pratiques complètement différentes les uns des autres ici, et peut-être qu'elles se complètent. Vous comprenez ce que je veux dire, en fait, bah, ouais. Mais nous, on a affaire, alors, les intermédiaires, c'est vraiment des voleurs, quoi.
Non.
Alors, par exemple, le commerce équitable, ceux qui pratiquent un commerce moins inéquitable, si vous voulez, comme nous, on essaie de le faire. Hein. Tout d'abord, c'est les commerçants qui existent aujourd'hui. Et il y a des commerçants aujourd'hui, nous on pense que c'est à peu près un tiers, hein, qui sont honnêtes, pour des histoires qui respectent les autres. Parfois pour des histoires religieuses, hein, voilà. Notamment dans notre banlieue, nous on discute beaucoup avec les commerçants, ils estiment être dans notre démarche. C'est-à-dire qu'ils essaient d'acheter des produits à un prix, des bons produits déjà, qui respectent la nature, à un prix qui permette non seulement aux producteurs, mais aux intermédiaires qui sont avant, notamment les transporteurs, qui leur permettent de vivre de leur travail, aujourd'hui, dans le système. On ne peut pas faire autrement, hein, mais on peut au moins chercher ça, d'accord? Et de revendre au client final avec une marge nécessaire, mais ni plus ni moins. Ils ne cherchent pas à s'enrichir, ils cherchent à vivre, tout simplement, comme les autres. Il y a des commerçants qui sont comme ça. Et puis il y en a d'autres, non, ils vont augmenter les marges pour se faire vraiment du profit et exploiter les autres. Mais, voilà. Mais par contre, ces commerçants-là, hein, ou les producteurs qui fournissent ces commerçants-là, ils n'utiliseront jamais le mot équitable. Parce que le mot commerce équitable, c'est tellement connoté maintenant, Nord-Sud, la charité, l'Église catholique derrière, parce que tout ça c'est entièrement chrétien. Hein. Surtout l'Église catholique, mais aussi en partie l'Église protestante, ça vient de là, hein, donc ça, voilà, c'est l'Église catholique. Partisans du monde, c'est l'Église catholique, c'est différent, hein, parce que c'est un mouvement. Mais... Voilà, donc la réalité, c'est pas les mots qui la définissent, c'est la pratique. Et moi, je connais beaucoup de commerçants, je me répète, mais c'est important, beaucoup de commerçants qui sont honnêtes et qui pratiquent, comme nous, un commerce un peu moins inéquitable. Voilà, au maximum. Hein. Et parfois, ils en crèvent, parce que vous pouvez le voir, d'ailleurs, dans tous les centres-villes, dans les quartiers, ben, les petits commerçants, ils disparaissent aussi, comme les paysans. Hein. Ils disparaissent. Et ils se battent à un moment donné, et puis ils disparaissent. Ou alors, ils se vendent à une marque... pour être de proximité, là, ça arrive à Saint-Denis, c'est comme ça maintenant. Bon, voilà quoi, donc ça veut dire qu'il faut quand même se questionner, se rencontrer, mais nous, on part de la pratique, hein. On part pas de... Tout le monde peut se dire équitable, d'autant plus qu'il n'y a ni de loi, ni de label, ni rien là-dedans. Ouais, je vous regarde parce que... Hein, donc, vous regardez les sites internet, parce que ça, c'est le mauvais côté aussi. C'est le mauvais côté d'internet. C'est sur internet, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Hein. Bon, si vous allez un peu loin, hein, par exemple l'appel à Daesh et tout ça, bon là, ils vont vous rentrer dedans. Mais sinon, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc nous, depuis qu'il y a les mots qui se trimballent de la commerce équitable, je ne vous dis pas les centaines de sites où il y a le mot commerce équitable. Développement durable, solidaire, enfin voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors c'est difficile, après par internet c'est vachement difficile, parce que c'est pas virtuel, la pratique elle n'est pas virtuelle. Et c'est là qu'il faut prendre du temps. Parce que nous on nous dit souvent, oh, on n'a pas le temps. Alors t'as le temps de regarder cette connerie là pendant 3 heures, la télé, les séries, les parents, enfin je sais plus ce qu'on a raconté, mais on n'a jamais le temps. Par contre, on a eu le temps, on a le temps et l'argent d'aller à Carrefour, parce que ça prend du temps quand même, excuse-moi, hein, mais ça prend du temps d'aller dans les grandes surfaces quand même.
Pour acheter
toute cette merde. Donc, voilà, c'est comme ça que je vous répondrai. La dernière question, comment on est plus équitable que d'autres, moi, j'en sais rien, ça ne m'intéresse pas ça. Nous, on essaie d'avoir de vie ce qu'on a envie de vivre, en tant que travailleur, justement, bon, voilà. Et puis c'est tout, on n'est pas. Je répète, hein, nous on ne se prend ni pour des exemples, ni des pionniers, ni. Parce que toutes ces histoires-là, ça existe depuis le début des temps. Depuis le début des temps, on nous a fait croire que le commerce équitable, le développement durable, tout ça c'est nouveau. Et puis comme par hasard, c'est encore l'Occident qui a inventé ces machins-là. Hein. Voilà. Et surtout les intellectuels et les cadres et tout ça. Hein. Et surtout pas le peuple, évidemment. Bon. Non. Et alors, comme c'est vieux comme le monde, les contradictions sont vieilles comme le monde. Oui. Toi, tu posais tout à l'heure la question du dévoiement, enfin, oui. Et là, on peut parler d'économie sociale et solidaire, effectivement, notamment des coopératives. Moi, je connais surtout le domaine des coopératives. Au début, c'était des travailleurs, les premières coopératives, d'ailleurs, c'était des coopératives de consommation. Pas des coopératives de production. À la fin du 19e, quoi, c'est les premières. Bon, qui étaient clandestines au départ. Voilà, nous on en avait une à côté de chez nous à Saint-Denis, ils étaient 9000. C'était pas trop 4, c'était pas une amas de 30 personnes, ils étaient 9000. Et c'est là que ça commençait à déconner d'ailleurs. Hein, parce que 9000 c'est beaucoup. Alors comment on s'organise, hein? On va nommer des directeurs, enfin non, on va nommer des présidents, des machins. Bon, nous on pense qu'il faut fédérer à ce moment-là. Il faut essaimer et fédérer dans des structures humaines, hein, où chacun peut encore avoir le droit à la parole et le droit à la décision. Et ces structures humaines, petites ou moyennes, on les fédère, horizontalement. Nous, c'est ce qu'on pense. Hein. Et c'est ce qu'on pense, parce que Proudhon, Fourier, et énormément de gens, et surtout de travailleurs, dont on n'a pas les noms, hein, qui ont fait ces choses-là, qui ont fait toutes ces coopératives, ils y ont pensé à l'époque. Ça, c'est un débat qui date depuis plus d'un siècle. Hein, Proudhon, Marx, l'avant-garde, hein, le Parti communiste, alors il faut une avant-garde. Hein? Ils appellent ça la démocratie, comment ils appellent ça, démocratie prolétarienne, mais
centralisme démocratique.
Bon, ça nous a amené Staline et Mao, etc. Et tous ces massacres, toute cette souffrance, et voilà. Donc, on a de quoi réfléchir. Hein? Sauf que la société a un peu changé parce qu'elle est devenue beaucoup plus absurde qu'avant. Hein? Aujourd'hui, on ne va pas se mettre à autogérer. Des usines de fabrication d'armement ou de gadgets, etc. Il y a un siècle, moi je lisais encore cette semaine des trucs sur l'autogestion, bon, c'était des usines de machines-outils ou des mines, comme ici, etc., qui pouvaient dire, tiens, on va autogérer du jour au lendemain. Même en 68, il y a eu des entreprises, moi je me souviens, notamment celle où était mon frère, par exemple, qui était ouvrier. Eux, ils ont tout de suite mis sur place un système d'autogestion, ils étaient prêts à redémarrer pour une autre société, une autre forme de société. Mais eux, ils étaient
Lip,
fondeurs.
Il y a eu Lip aussi.
Il y a eu, ouais, Lip, il y a eu des tas d'exemples.
Et ici, il y a eu un petit exemple. Mais
aujourd'hui, c'est difficile. En tout cas, c'est des vieux débats, donc il faut qu'on les reprenne, justement. Il faut qu'on prenne le temps, si on veut aller loin devant, il faut qu'on prenne le temps de regarder derrière, quoi. Il y a eu beaucoup d'expériences, il y a eu beaucoup d'écrits. C'est ça un peu qui me fait peur, c'est que le système est tellement fort là qu'il y a une rupture d'héritage de la part. Enfin, c'est les jeunes qui me disent ça, les plus jeunes. Hein. 30 ans, 25 ans, 20 ans, il y a une rupture d'héritage. Bon. Et l'éducation nationale fait beaucoup pour ça. Hein. On n'apprend pas l'histoire ouvrière hein, à l'école. On n'apprend pas les coopératives. On n'apprend pas le minimum de l'économie. Hein. C'est-à-dire. En Colombie, par exemple, les jeunes de 12 ans savent faire la différence entre une marge, un profit, un bénéfice, une valeur ajoutée et une plus-value. C'est important, c'est notre vie quotidienne. En France, c'est interdit. C'est interdit. On fait de la macroéconomie comme ça, et encore au collège, au lycée, un petit peu. Mais la microéconomie, notamment au niveau du commerce, zéro. Alors, il y a des professeurs, là aussi, hein, qui essayent de défier le système et d'expliquer certaines choses. Et il y a énormément de choses comme ça qu'on n'apprend pas à l'école. Et surtout pas, évidemment, l'héritage des luttes ouvrières. Alors, on voit ça vite fait, bien sûr, il y a 2 heures là-dessus. Mais c'est tout. Alors que ça devrait être l'essentiel. L'analyse des médias. L'analyse des médias aujourd'hui, la télévision notamment. Il faut le faire. On est 23% d'ouvriers aujourd'hui encore. Dans la population active. À la télé, on a 2% de passage. 2%. Hein. Raconter notre vie, nos créations, nos talents, parce qu'on est formidables, nous tous. Hein. On a 2% de temps de télévision. Et ces messieurs-dames qui font ce qu'ils veulent à la télé, ils se rencontrent entre eux, ils s'invitent entre eux, ils sont payés, attention, hein, chaque soirée, ils s'invitent entre eux, alors ils sont...
10 000 euros, 15 000 euros, c'est pas une petite soirée comme ça,
ouais, c'est
parce
ça,
que les réalités, c'est...
C'est ça.
Parce que les personnes...
C'est même les vedettes, tu vois. Ouais, bon, donc ça, il faut qu'on l'analyse. Hein. C'est pas eux, ces médias-là, hein, qui vont s'auto-analyser ou s'auto-critiquer. Donc c'est à nous, et il y en a qui ont commencé à le faire, hein, y compris des journalistes, ou des travailleurs, des syndicats qui ont commencé à analyser ça. Alors il faut se passer l'information et les analyses, pour essayer de décoder ça, parce que sinon on se fait complètement avoir, parce que la télé c'est quand même nouveau. Hein. Ça fait 50 ans, quoi. C'est un nouveau média, c'est comme Internet, quoi. On a du mal à réfléchir là-dessus. Mais pour moi, c'est une technique profondément inégalitaire. Moi, je travaille avec des gens, ils n'ont même pas le téléphone. Alors Internet, ils se font avoir complètement. Ils se font doubler, mais complètement. Ils n'arrivent plus à communiquer, quoi. Parce que plus personne ne prend son téléphone. Donc ils sont complètement laissés, complètement abandonnés. Bon, voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on peut utiliser cet outil, hein, mais on a du boulot là. Bon,
Eh bien, c'est la toute dernière intervention de Michel Besson, cette fois-ci concernant la propriété privée.
Le fondement de la société, c'est aussi la propriété privée, quoi. Ou même collective. Hein.
Ouais.
Moi, j'ai vécu dans une communauté indienne au sud de la Colombie pendant 4 ans. Donc, les gens parlaient le quechua. Le mot propriété n'existe pas en quechua. Ça ne vient pas à la tête de ces populations, de ces communautés, de s'approprier une partie de la nature. Ça, c'est pas dans leur esprit.
Ils n'ont rien. Mais je veux dire,
ils ont tout.
C'est un truc qui existe.
Non, ah, les pauvres. Alors, évidemment, si tu es paysan, tu as besoin d'un bout de terre, etc. Bon, ouais. La communauté, si tu veux, il y a des cabildos, hein, c'est des réunions, comme des conseils municipaux, mais ils ne sont pas 15, là, hein, ils sont 300, et ils se répartissent la terre, si vous voulez, selon le besoin des familles. Hein. Si vous avez, voilà, vous êtes à retraite, les enfants sont partis, hop, ouais. On enlève de la terre, on va les donner aux jeunes, justement. Hein, etc. Ça se passe comme ça, mais de manière complètement naturelle. Ouais. Bon, c'est une parenthèse que je fais, mais c'est important. Et au niveau de la justice, par exemple, s'il y a un problème de vol dans une communauté, obligatoirement, c'est la communauté qui est condamnée. Ouais. Comment la communauté a pu laisser faire que quelqu'un ait faim, par exemple, ou ait besoin d'un outil? Vous voyez, c'est une autre philosophie, c'est une conception de la vie complètement différente. Ouais.
Bien, cette émission Remue-Ménage se termine. C'était CLIS 21 et son débat Penser Ensemble concernant l'économie sociale et solidaire et le changement de société avec Michel Besson. Je vous rappelle que Remue-Ménage, c'est tous les dimanches matins avec à chaque fois un débat, une conférence, une intervention individuelle ou collective. Eh bien, d'ici là, bonne semaine à tous, à toutes, et rendez-vous à dimanche prochain.